Bonjour! Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue! Comment ça va les amis? Bienvenue à vous. Est-ce que tout va bien pour vous en ce moment? Dis donc. Petit stream du lundi, peinard, détente. Pas trop de prise de tête aujourd'hui. Ça va et toi? Bah oui, ça va, ça va, ça va très bien. Est-ce que vous arrivez à survivre sans Pornhub? Est-ce que ça va vous y arriver? Non, parce qu'on nous a vendu l'apocalypse, hein. On nous a vendu l'apocalypse, la fin du monde, etc. Voilà. Non, ah merde. Ah, il y en a qui sont dans la souffrance. Il y en a qui sont dans la souffrance. Mais t'es dans la souffrance parce que t'arrives pas à trouver d'alternative. Je parle même pas de VPN, hein. Juste des alternatives. Pour l'instant, ça va. Il y en a d'autres de toute façon. Mais oui, il y en a 1 milliard. Il y en a 1 milliard. Je suis là, c'est pourquoi d'après toi? Eh oui, c'est vrai. Non mais tu as raison. Ma chaîne Twitch est une alternative à Pornhub, d'un certain point de vue. Enfin, je veux dire dans le sens où c'est un autre truc que vous pouvez faire sur Internet. C'est pas exactement la même chose. Disons qu'il y a des différences qu'on peut juger subtiles. Mais techniquement, je suis une alternative, effectivement. Quand vous, ouais. Si vous n'arrivez pas à vous passer de Pornhub, vous pouvez venir sur ma chaîne. Ce sera une autre expérience, d'un autre genre. D'un autre genre. Merci Tétard64, merci Adrien, merci Flemmard, merci Naroge, merci Le Texan, merci Joffen, merci pour vos abonnements. Je ne vois aucune différence. Techniquement, c'est marrant, hein, que tu sois sur Pornhub ou sur ma chaîne, c'est exactement pareil. Alors du coup, par contre, je m'interroge sur qu'est-ce que tu regardais sur Pornhub. Mais je suis pas sûr d'avoir envie de savoir, en vrai. Non, me le dis pas. Est-ce que tu es en concurrence avec Pornhub? Non, c'est pas de la concurrence, c'est de la... Comment dire? On est complémentaires. On va dire ça comme ça, on est complémentaires. Dans l'offre foisonnante qu'est Internet, chacun prend sa part. On va dire ça comme ça. Là, je suis nu et j'ai du sopalin à disposition. Plutôt que de demander pourquoi il regarde sur Pornhub, pourquoi il regarde ton live? C'est vrai ça? Pourquoi tu es en train de regarder mon live? C'est bizarre ça. T'es sponsor par eux ou quoi? Quoi, par Pornhub? Non, 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 oula, non, oula, non, 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 je suis pas sponsor par Pornhub. Non, puis alors, franchement, Pornhub, c'est vraiment pas un modèle de pornographie. Comment dire? Respectable. C'est un peu l'autoroute du cul avec des conditions de travail des. Éthique, ouais, éthique, c'est le bon mot, vous avez raison. C'est loin d'être le plus éthique des sites porno. C'est un peu l'autoroute du cul version hard discount, y compris dans les conditions de travail et de rémunération. C'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Pornhub, on n'arrive jamais à la fin de la vidéo avec toi, on va jusqu'au bout. On fait une tier list des sites de porn éthique. Du coup, aujourd'hui, oula, non, 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 plus. Alors aujourd'hui, vraiment, je m'y connais pas du tout, hein. En plus, j'ai pas du tout la prétention de m'y connaître. Est-ce qu'il y a du porno éthique? C'est une question sérieuse, honnêtement. Bien sûr, il y a des productions de pornographie sur Internet qui se revendiquent d'avoir une éthique dans les conditions de travail et dans les conditions de rémunération de l'ensemble de la chaîne de production. Il y a des studios, des boîtes de production indépendantes qui font du porno éthique. Il y a des créateurs et des créatrices indépendantes sur des plateformes comme OnlyFans, par exemple. Mais oui, au sein de l'industrie du porno, et encore une fois, les gars, je ne suis pas du tout un expert, hein. Je vous parle que d'en surface de ce que j'ai compris. Il y a des luttes très importantes qui existent entre des mastodontes comme Pornhub qui ne respectent pas grand-chose. Et des plus petites productions qui essayent de rééquilibrer la balance, quoi. devant tes lives, je peux durer de plus de 4 heures. Vous êtes con. Putain, vous êtes con. Mais c'est intéressant de se renseigner sur le sujet. Hein. Moi, je suis assez mal. Je suis assez mal renseigné sur le sujet du porno éthique, mais j'ai vu des articles qui sont passés, des interviews, des gens qui réfléchissent le porno alternatif, bien sûr. En France, t'as un reportage et une interview de Ovidi qui en parle très bien du film porno éthique. Ouais. Ovidi fait partie des lanceuses d'alerte, je sais pas si c'est exactement le bon titre, mais des personnes qui effectivement tirent la sonnette d'alarme sur les conditions dans lesquelles sont réalisées et diffusées les vidéos porno qu'on regarde tous les jours. Pour ceux qui en regardent tous les jours. Il y a des meufs 1-2 qui... Il y a des meufs indés qui utilisent Pornhub pour, comme lieu pour faire de la pub aussi. Oui, j'avais vu, c'était le cas de Calamité, par exemple. Calamité, qui est une créatrice, qui en avait parlé dans l'article du Monde, où elle disait qu'elle se servait de Pornhub pour attirer vers ses réseaux, notamment OnlyFans, je crois. Et elle était interrogée dans la newsletter de Backseat. Oui, c'est vrai, tu as raison, Salamèche. Point d'exclamation newsletter, hein, pour celles et ceux qui ne sont pas encore inscrits à la newsletter de Backseat. Bonjour Jean, comment vas-tu? Ben ça va très bien, je suis bien, j'ai mon café, j'ai mon chat, on discute. Il y a une newsletter, oui, pour ceux qui ne savaient pas, il y a une newsletter de Backseat, oui. Vous devriez vous inscrire, elle est chouette. Et si vous êtes abonné à Backseat, si vous faites partie du club Backseat, si vous donnez de l'argent à Backseat, en gros, si vous donnez pas encore d'argent à Backseat, c'est le moment de vous y mettre. Si vous donnez de l'argent à Backseat, vous avez accès à une newsletter augmentée avec encore plus de contenu. C'est un complot à chaque fois que Jean lance un live, mon voisin lance sa perceuse. Ah bon? Merde. Non, moi pour le coup, j'ai plus eu de perceuse depuis une semaine ou deux là. Ils ont décidé de me foutre la paix, visiblement. Je suis très content. SFR victime d'une panne massive, les abonnés privés de réseau. Ah ouais? Chez SFR? Ça me ferait chier. Salut les gens qui n'ont pas perdu leur Légion d'honneur. Oui, j'ai vu que Nicolas Sarkozy avait, ça y est, officiellement été déchu de sa Légion d'honneur, alors qu'il avait le plus haut grade possible. Je vous rappelle, hein, que les présidents de la République, ils ont le grade de commandeur de la Légion d'honneur. Et ce sont les seuls. Commandeur ou Grand Croix? J'ai un doute. C'est peut-être Grand Croix, hein. T'as peut-être raison. Je sais plus, je me souviens plus des grades. C'est Grand Croix le maximum? Grand Croix de la Légion d'honneur. Et bref, il a été déchu de sa Légion d'honneur. Il ne pourra plus l'arborer sur sa veste. C'était super le Backseat CGT, bravo d'avoir survécu au soleil. Ah, vous avez bien kiffé le Backseat pour les 130 ans de la CGT? Ça vous a plu? C'était très sympa à faire. Je remercie encore les équipes de la CGT. Avec qui on a bossé pour préparer cette émission. Merci à eux pour le partenariat, merci pour de nous avoir accueillis. Pas trop chaud sur scène? Si, on mourrait de chaud, hein. On mourrait de chaud. Moi j'avais mes avant-bras là, qui étaient posés sur la table, là, ils transpiraient à mort, il y avait de l'eau, il y avait de la transpiration, il y avait de la sueur sur mon bureau et tout. Non, c'était incroyable. On a appris plein de trucs. C'était frais. Eh ben merci, ben écoute, je suis très content. Si vous avez appris des trucs en plus, tant mieux. Ça servait à ça. C'était vraiment chouette, c'est toujours cool d'entendre les syndicats, ça manque dans le paysage audiovisuel. Ben, c'est ce que disait, j'allais dire Lucie Castet, pardon, ben, du tout, Sophie Binet. C'est ce que disait Sophie Binet à la fin, c'est que les syndicats, ils sont invités dans les médias que quand il y a des blocages, quand il y a des grèves. Et ils répondent toujours aux mêmes questions en boucle. Mais personne n'invite les syndicats en dehors des périodes de grève, quoi. C'est vrai qu'on n'entend pas trop les syndicats en dehors de ça. Super backseat, même si c'est toujours un poil trop court à mon goût. Ah, t'es chiant, on fait ce qu'on peut, hein. T'es marrant, on a fait 2h30 de backseat. 2h30 de backseat au soleil. On a réussi à ramener du monde devant le pu devant le de, du monde du public. Les Dwito aussi étaient vachement bien. Les Dwito d'Edoui Plenel. Je sais pas si vous avez suivi, mais Edoui nous a fait un Edwito sous forme d'hommage au syndicalisme. C'était très très chouette de sa part. J'ai bien aimé. On n'entend pas les pompiers en dehors des périodes d'incendie. Oui, effectivement, t'as raison. T'as raison. C'est une super idée, les Edwito cette saison. Ils sont toujours au top. Ouais, ils sont cool, les Edwito, ouais. Ça devait être éprouvant avec la chaleur. C'était dur, c'était dur. Honnêtement, c'était dur. Honnêtement, c'était dur. On a un peu galéré. Enfin, j'ai un peu galéré. Et moi, je me suis tapé toute l'émission. Mais on a quand même adoré faire cette émission. C'était très sympa. C'est moi qui étais fatigué ou il n'y avait pas de quiz à la con? Non, il n'y avait pas de quiz à la con. On n'avait pas le temps pour le quiz à la con. On a fait sauter le quiz à la con pour mettre plus de syndicalisme. C'est pour plus de syndicalisme. Oh, non, non, non. J'ai pris la décision dans la préparation de l'émission de supprimer le quiz à la con. Ça nous donnait. Parce que de toute façon, on n'avait que 2h30, donc c'était soit on faisait. Enfin bref, ça allait mordre sur le reste. Donc on a décidé plutôt de laisser tomber le quiz à la con. Le quiz était en grève en soutien à la CGT. Oui, voilà, on va dire ça. La CGT un peu trop premier degré pour un quiz à la con. Ah, par ailleurs, c'est vrai que la CGT, ils sont très premier degré. Ils sont très 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 premier degré. Le quiz en extérieur, c'est compliqué, je trouve. Bah pourquoi? Ah, parce qu'on voit pas sur l'écran les réponses? Oui, peut-être. Ouais, peut-être, peut-être. Je sais pas. Est-ce que vous avez vu que il y a eu du rififi au salon du Bourget sur le stand des industriels israéliens qui exposaient des armes offensives d'après le gouvernement et qui ont été interdites? Vous avez suivi ou pas? Alors pour celles et ceux qui connaissent pas, le salon du Bourget, le Bourget déjà c'est une ville en banlieue parisienne, au nord de Paris. Et c'est surtout un aéroport, le Bourget. C'est un aéroport qui est plus petit que les aéroports internationaux Orly et Roissy, mais c'est un aéroport qui est utilisé beaucoup par des jets d'affaires. Mais c'est surtout un aéroport historique. C'est un des plus vieux aérodromes français. Toute une partie de l'histoire de l'aviation mondiale s'est écrite au Bourget, et c'est le lieu où il y a actuellement le musée international de l'aéronautique. Je sais pas s'il est international le musée, mais bref, le musée de l'aéronautique du Bourget est fameusement réputé dans le monde entier. Ils ont des pièces de collection absolument incroyables et tout. Et tous les 2 ans, il y a un salon du Bourget qui est un salon professionnel et un salon ouvert au public où il y a des exposants, il y a des démonstrations en vol. Moi, je devrais y aller ce week-end normalement aux démonstrations en vol parce qu'en fait, le salon du Bourget, c'est d'abord un salon professionnel et ensuite il est ouvert au public. Vous avez du lundi au vendredi, c'est le salon réservé aux professionnels. C'est vraiment un salon professionnel, hein, je vais pas vous faire un dessin, vous savez ce que c'est, il y a des mecs en costard qui se baladent et qui négocient des contrats ou je sais pas quoi. Et ensuite, le vendredi, samedi, dimanche, c'est ouvert au grand public, où là vous pouvez venir si vous n'êtes pas un professionnel, et vous pouvez visiter le salon, et vous pouvez assister aux démonstrations en vol qui sont faites par des avions. Et le Bourget est un salon aéronautique à la fois d'aéronautique civile et de défense, et aussi de spatiale d'ailleurs. Donc vous avez vous avez de l'avionique, de l'aéronautique, pardon, civile. Vous avez Airbus, vous avez Boeing, vous avez Bombardier, vous avez tous ces gens-là, etc. Mais vous avez aussi du défense, vous avez aussi du militaire. Et c'est là que vous retrouvez Dassault, vous retrouvez Lockheed Martin, etc., qui sont des exposants militaires, quoi. Et là, en l'occurrence, on va lire un article ensemble du journal Le Monde. Hop. Attendez, ça, il faut que je le pousse là. Didadidadoum. Salon du Bourget. Cinq stands d'industriels israéliens exposant des armes offensives ont été fermés par le gouvernement. Le salon du Bourget, il a ouvert ce matin. Hein. Dès le premier jour, il y a eu un problème. Les stands d'Israel Aerospace Industries, Rafael, Eurovision, Elbit et Aeronautics ont été entourés de cloisons noires vendredi à l'ouverture du salon de l'aéronautique. Non, lundi, à l'ouverture du salon de l'aéronautique. Les armements offensifs ne devaient pas être présents, a expliqué François Bayrou. Ah. Donc vous voyez là les bâches noires qui ont été mises devant les stands et on voit derrière des missiles. C'est quoi la différence entre arme offensive et défensive? Une arme offensive, ça sert à attaquer un adversaire. Une arme défensive, ça sert à se défendre contre les attaques de son adversaire. Par exemple, des roquettes d'interception de missiles, par exemple, c'est une arme défensive. Ça sert à éviter de se prendre des missiles dans la tronche. L'accès au stand de cinq industriels de l'armement israélien exposant des armes offensives au Bourget a été fermé lundi 16 juin à l'ouverture du Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris, sur décision des autorités françaises. Un journaliste du Monde présent sur place a constaté que les stands des exposants Israel Aerospace Industries, Rafael, Eurovision, Elbit et Aeronautics avaient été entourés de cloisons noires et n'étaient plus accessibles. Des armements offensifs, entre guillemets, comme ceux susceptibles d'être utilisés dans la bande de Gaza, y étaient présentés en violation du cadre agréé en amont avec les autorités israéliennes, selon les autorités françaises. Donc en gros, il y avait un deal qui avait été passé avant le salon, en disant vous exposez pas des armes offensives, et d'après le gouvernement, les Israéliens auraient quand même voulu, enfin les industriels israéliens auraient quand même voulu exposer des armements offensifs. Rafael, Elbit et IAI produisent notamment des bombes guidées et des missiles, Eurovision et Aeronautics des drones. La France considère qu'il y a une situation terrible pour les Gazaouis, une situation humainement et du point de vue humanitaire, du point de vue sécuritaire extrêmement lourde. La France a tenu à manifester que les armements offensifs ne devaient pas être présents dans ce salon, a expliqué en début d'après-midi à la presse le Premier ministre François Bayrou, après avoir inauguré ce grand rendez-vous des industriels de l'aviation et de la défense. Ok, donc François Bayrou lui-même a confirmé que c'était à cause des armes offensives. Israël dénonce une décision scandaleuse. Les organisateurs disent avoir exécuté une instruction émanant des autorités françaises, compétentes en amont de l'ouverture du salon, relative au retrait de certains équipements présentés sur les stands israéliens. Les sociétés en question sont pour autant autorisées à exposer au salon. Le dialogue est engagé de manière à ce que les différentes parties puissent trouver une issue favorable à la situation, ajoute-t-il. Ce sont des armes démilitarisées, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est celles qui sont exposées, oui, évidemment. Oui, non, y a pas d'explosifs à l'intérieur. Enfin, j'espère pas. Pour des raisons de sécurité. Plusieurs agents d'une compagnie républicaine de sécurité patrouillaient autour de ces espaces lundi en début d'après-midi. Le stand du ministère de la Défense israélien demeurait quant à lui accessible. Le ministère de la Défense israélien a vivement condamné dans un communiqué cette décision scandaleuse et sans précédent qui sent les considérations politiques et commerciales. Cela intervient à un moment où Israël mène une guerre nécessaire et juste pour éliminer la menace nucléaire et balistique qui pèse sur le Moyen-Orient, l'Europe et le monde entier, estime-t-il. Le président israélien Isaac Herzog a lui aussi dénoncé cette décision, la qualifiant de scandaleuse et appelant à ce que la situation soit corrigée immédiatement. Nous avons, je cite, nous avons été choqués de constater ce matin que les pavillons israéliens étaient bouclés et verrouillés, empêchant tout accès pendant le salon. Des entreprises israéliennes ont signé des contrats avec les organisateurs, ils ont payé, C'est comme créer un ghetto israélien. Ouais, alors je ne sais pas si j'irai jusqu'à la notion de ghetto, mais. Tension diplomatique. La présence d'industriels israéliens et l'armement fait régulièrement l'objet de passes d'armes entre Paris et Tel Aviv depuis l'offensive israélienne à Gaza, provoquée par l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023. Le salon du Bourget 2025 se tient donc dans un contexte de tensions diplomatiques renforcées. Ils avaient été empêchés d'exposer au salon Eurosatory, consacré à la défense terrestre au printemps 2024, puis autorisés in extremis par la justice à exposer lors du salon Euronaval à l'automne. Mardi 10 juin, le tribunal judiciaire de Bobigny, en banlieue parisienne, avait rejeté la requête d'association qui lui demandait de bannir les entreprises israéliennes du salon du Bourget. Ah donc il y avait des assos qui s'étaient mobilisés en amont. Lundi matin, sur la bâche en tissu noir qui clôturait le stand de Raphaël, une exposante a écrit à la craie jaune un message en anglais et en français. Je cite: Derrière ces murs se cachent les meilleurs systèmes de défense utilisés par de nombreux pays. Ces systèmes protègent aujourd'hui l'État d'Israël. Le gouvernement français, au nom de la discrimination, tente de nous les cacher, de vous les cacher. Le message a été très vite dissimulé par les organisateurs sous de nouvelles bâches noires. Donc voilà pour celles et ceux qui n'avaient pas suivi ce qui s'est passé au Salon du Bourget ce matin. Le rififi entre les autorités françaises et israéliennes. En tout cas, ça a été confirmé par. C'est pour ça que je vous en ai parlé, c'est parce que ça a été confirmé par François Bayrou, Premier ministre, qui était à l'inauguration ce matin du Salon du Bourget et qui a confirmé qu'il ne voulait pas que les stands israéliens exposent des armes offensives. Est-ce que ça veut dire que les stands israéliens vont avoir l'opportunité d'exposer des armes non offensives plus tard dans le salon? C'est possible. Apparemment, des discussions sont en cours, de ce que j'ai compris. On verra. Bon, la France essaye toujours de les ménager. On les invite, mais juste pas des gros missiles. Bah, c'est oui, c'est toute la subtilité du positionnement diplomatique sensible entre la France et Israël dans un contexte, je vous rappelle, de sommet international à New York, hein, sur la paix au Proche-Orient. C'est quoi une arme non offensive? Bah, il y a des systèmes d'armement qui ne sont pas offensifs, il y a des systèmes d'armement qui sont défensifs, des systèmes de protection contre les bombardements par exemple. Merci Clément pour ton raid, bienvenue les viewers de chez Clément, j'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement, profitez-en pour follow la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On est en train de faire une petite revue d'actu, mais plutôt détente, hein, plutôt chill. Et là, on vient de lire un article qui explique... qui explique... qu'il y a eu du rififi au salon du Bourget, vous savez, le salon aéronautique et spatial du Bourget. Il y a eu du rififi entre la France et Israël sur des exposants israéliens. Hop. Donc voilà quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? À propos des attaques entre Israël et l'Iran, j'ai un article qu'on peut lire, parce que ça fait du bien de prendre un petit peu de distance par rapport au fracas de l'actualité et avoir un petit peu d'analyse. Là, en l'occurrence, il y a un article qui a été écrit dans Libé par Dov Alphon et Hamdam Mostafavi, qui sont deux journalistes assez en pointe à ma connaissance sur ce sujet. Hop! Israël, Iran, Netanyahou et Khamenei jouent au poker avec la guerre. Analyse. Qu'est-ce qui se passe en ce moment entre Israël et l'Iran? Soudaine et meurtrière, l'escalade survenue au Moyen-Orient ces derniers jours illustre les stratégies personnelles du Premier ministre israélien et du guide suprême iranien pour asseoir leur pouvoir et leur crédibilité dans leur pays. Le 7 novembre 2024, à 2 000 km de distance, l'un de l'autre, deux leaders âgés et acculés parvenaient à une même conclusion. L'élection inattendue de Donald Trump à la Maison-Blanche pouvait leur offrir l'occasion de régler bien des problèmes en interne. Pour Benjamin Netanyahou, confronté aux limites de sa coalition baroque et chancelante, cernée par des manifestations de plus en plus étendues, Menacé par la perspective de son procès pour corruption et inquiet de sa consignation dans l'histoire au rang de responsable du plus grand échec sécuritaire de la nation juive, les attentats du 7 octobre, le retour de son vieux pote dans le bureau ovale pourrait permettre de sortir du frigo le plan ambitieux, repoussé par tous les présidents américains depuis au moins 2 décennies, de mettre un terme aux ambitions nucléaires des Mollahs par la force. Ouais, effectivement. Ça, c'est l'agenda de Benjamin Netanyahou. Du côté d'Ali Khamenei, le guide suprême sait, lui, que le caractère imprévisible et anticonformiste du leader américain peut le pousser à sceller un accord sur le nucléaire, même si c'est Trump qui, en 2018, avait déchiré le précédent accord conclu par Obama. Car la situation a changé. Les Iraniens ont eu plusieurs années pour faire avancer leur programme nucléaire, ce qui leur redonne un avantage, même si sur d'autres fronts, la situation est plus tendue que jamais. Après avoir fait face à une révolte populaire majeure, sans doute la plus symbolique depuis l'avènement du régime, Khamenei a dû faire face à l'élimination systématique par Israël de ses proches commandants et de ses alliés, en premier chef le fils spirituel Hassan Nasrallah, patron du Hezbollah libanais. L'économie iranienne est, elle, au plus bas. La levée des sanctions semblant la seule voie de sortie possible. Ali Khamenei sait que face à Trump et à sa proximité avec Israël, il lui faut passer un deal ou en subir les conséquences. Le tout étant de disposer de suffisamment de moyens de nuisance pour faire tourner ce deal à son avantage. C'est intéressant parce qu'on voit que tout autant Alexis Khamenei et, ou Khamenei, vous le prononcez comme vous voulez, et Benjamin Netanyahou, tous les deux, ils sont acculés dans leur propre pays. Ils font face à des tensions absolument majeures du côté de la société. Ali Khamenei, c'est du côté de l'économie de son pays. Et Benjamin Netanyahou, c'est la pression populaire, notamment les manifestations, qui s'en prennent à sa coalition d'extrême droite, qui n'est pas du tout certaine de gagner les prochaines élections si jamais elles étaient organisées, loin de là. Donc ouais, non, c'est intéressant. Art de souffler le chaud et le froid. À la mi-novembre, selon ses propres révélations dans un dernier discours télévisé, Benjamin Netanyahou donnait ordre à son nouveau chef d'état-major de réactiver le plan d'attaque sur les infrastructures nucléaires iraniennes. Et le 5 décembre, selon un rapport d'enquête de l'Agence internationale de l'énergie atomique, la IEA, vite balayé par les événements, Ali Khamenei ordonnait l'accélération de la production d'uranium enrichi à 60%, soit bien plus que toute justification civile crédible. Oui, ça c'est beaucoup, 60%. De mémoire, le nucléaire civil, c'est 3%, je crois. 2%, 3%, je sais plus. C'est pareil pour Poutine, rien ne vaut de liguer sa nation contre un ennemi historique pour mettre sous le tapis les problèmes locaux. Ouais, les problèmes internes. Ouais, je suis d'accord. C'est 3 à 5% l'enrichissement d'uranium pour le civil. Ok. Donc effectivement, 60%, on se dirige vers du militaire. Mais je crois que pour le militaire, il faut aller jusqu'à 90%. Ouais, vous aussi, vous aviez cette information. 90% d'enrichissement d'uranium. Mais une fois que tu as fait le saut technologique qui te permet de passer jusqu'à 60%, je crois que c'est plus facile d'aller jusqu'à 90%. Pour l'Iran, il s'agit donc avant tout d'arriver à la table des négociations face à Trump, le roi du deal, avec des cartes assez fortes pour en influencer le résultat. Cet objectif fut pleinement atteint lorsque, d'après le rapport de l'AIEA, Téhéran avait produit au 12 juin 2025 assez d'uranium enrichi pour fabriquer plus de 9 bombes. Bien décidé à ne pas se laisser balloter comme Volodymyr Zelensky avant lui, Khamenei pouvait être persuadé que Trump se laisserait convaincre par une offre combo de menaces nucléaires d'un côté et de champs gaziers et pétroliers à vil prix de l'autre, carottes et bâtons. Un art de souffler le chaud et le froid qui a permis au régime de se maintenir depuis 45 ans, de diffuser sa politique via ses proxys dans tout le Moyen-Orient et d'être une puissance régionale majeure malgré une guerre, des révoltes régulières et un lot sans cesse plus lourd de sanctions internationales. Intéressant. Mais pour Netanyahou, il n'est pas question de laisser un deal irano-américain se mettre en place. Vendredi 13 juin, il fait un malaise Lors de son interrogatoire à son procès pour corruption, sa coalition menace de s'effondrer au Parlement et son gouvernement mène à Gaza et en Cisjordanie des actions de plus en plus illégitimes, contestées dans l'opinion israélienne et vues comme génocidaires dans l'opinion mondiale. 48 heures avant l'ouverture de discussions avec l'Iran à Oman, Netanyahou pense pouvoir se débarrasser d'un seul coup de tous ses tracas, bombarder l'Iran, faisant oublier tout le reste. C'est ça en fait que cherche Benjamin Netanyahou. C'est à attaquer l'Iran pour pas qu'on parle du reste, pour pas qu'on parle de Gaza, pour pas qu'on parle de la Syrie. Pas la Syrie, pardon, la Cisjordanie. Car après l'attaque contre l'Iran, l'extrême droite ne peut plus menacer de quitter la coalition. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai qu'il a, il a solidifié sa coalition avec cette attaque contre l'Iran. Cette nouvelle guerre ouvre la porte à une participation du centre droit au gouvernement, donnant à Netanyahou un bien plus grande marge de manœuvre politique. Mieux, une guerre avec l'Iran laisse flotter sur l'Occident le danger d'une guerre énergétique mondiale, d'une nouvelle vague de réfugiés, d'un effondrement des marchés, d'un blocus maritime, d'une instabilité politique dans des pays arabes amis, voire d'accidents nucléaires. Autant de raisons géopolitiques suffisantes pour relâcher la pression sur Gaza. Attendez, il faut que je relise cette phrase parce que je ne l'ai pas comprise. Mieux, une guerre avec l'Iran laisse flotter sur l'Occident le danger d'une crise énergétique mondiale, une nouvelle vague de réfugiés, d'un effondrement des marchés, d'un blocus maritime, d'une instabilité politique, voire d'accidents nucléaires, autant de raisons géopolitiques suffisantes pour relâcher la pression sur Gaza. Ouais, d'accord, ok, je comprends. Effectivement. Ça, c'est une menace que fait peser également Benjamin Netanyahou sur les pays occidentaux, dont la France et l'Europe, d'une déstabilisation de la région et donc de l'économie mondiale. Donald Trump aurait-il pu empêcher cette guerre dans la nuit de vendredi à samedi, alors qu'il pérorait au pique-nique annuel du personnel de la Maison Blanche? Oui. L'a-t-il fait? Non. C'est la raison de l'incompréhension iranienne de la situation. Se préparant à un round de négociations décisives à Oman, les Iraniens se croyaient à l'abri. À coup sûr, Trump, tout content à l'idée de faire le deal du siècle, tiendrait en laisse Netanyahou, dont la politique radicale à Gaza mettait de plus en plus mal à l'aise ses alliés occidentaux. Ok. Les options du régime iranien sont toutefois plus variées que Netanyahou a l'air de le penser. Le régime iranien, tout comme Israël, pourrait désormais estimer qu'il mène un combat pour sa propre survie. Il lui faut en tout cas démontrer sa force, tant à son propre peuple qu'à l'ensemble de la région. Face à l'échec relatif de ses représailles jusqu'à aujourd'hui, Téhéran peut être tenté de viser les bases américaines au Qatar et à Bahreïn, mettant la pression sur Trump de préférer un deal comprenant l'arrêt des frappes israéliennes du régime iranien, garde la capacité de nuisance en Irak, où des milices chiites peuvent s'attaquer aux Américains, ou encore en Syrie, où le nouveau pouvoir n'est pas encore consolidé. Attendez, pareil, il faut que je relise la phrase. Ouais, en Irak, ouais, ok, d'accord. Mais de là à ce que Téhéran frappe des bases américaines, j'ai du mal à y croire. Je suis pas sûr qu'ils aient intérêt à faire ça. Trump a déjà signalé, comme à son habitude, dans une phrase hautement ambiguë pouvant signifier tout et son contraire, une escalade entraînant une participation massive des États-Unis dans ce conflit. Bah oui. L'Iran pourrait donc préférer d'autres options tout aussi incontrôlables, comme l'arrêt par la force de toute exportation de pétrole de la région. L'Arabie saoudite craint depuis longtemps des frappes sur son approvisionnement en eau, par exemple, ou sur ses installations énergétiques. Ah oui, c'est-à-dire que si en représailles, l'Iran attaque l'Arabie saoudite, là, effectivement, tu as un choc pétrolier mondial. De telles actions entraîneraient probablement un conflit régional bien plus dangereux pour la paix du monde. Mais pour les deux joueurs de poker attablés face à Trump, il en va non seulement de leur sécurité nationale, mais aussi de leur survie personnelle. Khamenei, comme Netanyahou, ont besoin de l'état de guerre perpétuelle pour se maintenir. Pour l'un comme pour l'autre, ce n'est pas le moment de quitter la table. Il est bien cet article, il est dense. C'est un article qui est assez dense à comprendre, mais c'est un article d'analyse qui nous montre bien en miroir Netanyahou et Khamenei, qui montre bien que chacun joue une équation assez difficile qui se résume à Donald Trump à la fin, quoi. À la fin, ce qu'on en retient, c'est que le caractère complètement imprévisible de Donald Trump fait courir un danger majeur sur l'équilibre des forces au Proche-Orient, quoi. C'est quoi le titre de l'article? C'est Israël, Iran, Netanyahou et Khamenei jouent au poker de la guerre. Au poker avec la guerre. Tiens, je te mets le lien dans le chat. C'est déprimant, deux pays qui ont intérêt à maintenir un état de guerre et l'ONU ne sert à rien. Bah, l'ONU, c'est un cadre de discussion, hein, je vous rappelle. C'est pas l'ONU qui peut agir ou pas agir. À partir du moment où Donald Trump a décidé que les rapports internationaux avec les États-Unis se feraient par la force et que chacun irait signer un deal de manière univoque, les Nations Unies ne servent plus à rien. De fait, le cadre historique du droit international est complètement outrepassé par des puissances qui ne respectent plus le droit international. Mais l'ONU, ce n'est pas la police du monde. Il y a une énorme misconception de ce que c'est et de ce que n'est pas l'ONU. L'ONU n'a jamais servi à rien en cas de guerre. Si, sur la résolution du conflit dans le cadre des Nations Unies, il peut y avoir des résolutions qui ont permis la fin des conflits et la stabilisation, etc. Si, ça peut arriver. Mais moi, pour vulgariser, en général, ce que je dis, c'est que l'ONU, c'est une table. C'est une table de réunion. C'est-à-dire qu'autour de la table, il y a des chefs d'État qui s'assoient et qui discutent. Mais l'ONU, en tant que table, elle fait rien, elle. Elle peut rien faire. L'ONU est un cadre. C'est un cadre de discussion diplomatique internationale. L'ONU, c'est le salon avec canapé. Oui, c'est ça. En fait, il faut pas s'en prendre. Si une réunion est décevante, il faut pas s'en prendre à la table de réunion, elle a rien fait. C'est ça que je veux dire. Si les décisions prises par des chefs d'État dans le cadre des Nations Unies sont décevantes, faut pas en vouloir aux Nations Unies. Elles ont juste permis le cadre de la discussion. Après, si la discussion, elle est à chier, elle est à chier. Ça, faut en vouloir aux chefs d'État. Donc voilà, à quoi sert l'ONU? À la même chose qu'une table de réunion. C'est un cadre. C'est les pays en eux-mêmes qui sont nuls. Oui, si tu veux. Oui, si tu veux. Est-ce qu'on peut poser les pieds sur l'ONU? Je suis pas sûr. Je comprends pas, l'ONU c'est une table ou un cadre, mais c'est la même chose. Non, mais t'as très bien compris. En quoi cette situation est profitable à l'âge d'or promis par Trump à son électorat? Ben, c'est une bonne question. Moi, je me demande bien en quoi c'est profitable à Donald Trump, une déstabilisation de l'ensemble du Proche-Orient, une guerre entre Israël et ses voisins, une nouvelle guerre entre Israël et les pays arabes. Je vois pas en quoi ce serait bénéfique à Donald Trump, surtout si on fait peser la menace de la déstabilisation des marchés boursiers et des marchés pétroliers, notamment, et gaziers. Donc, je veux dire, une flambée du cours du pétrole mondial n'est pas dans l'intérêt de Donald Trump du tout. Trump dira que c'est la faute de Biden et hop, le problème est réglé. Ouais. Oui, connaissant Trump, il va accuser Biden d'être responsable de tout. C'est à cause de Biden s'il se passe des trucs dans le monde. Mais c'est fou à quel point Donald Trump joue un rôle majeur dans ce qui est en train de se passer en Israël et donc à Gaza, en Cisjordanie et avec l'Iran, quoi. C'est très impressionnant de voir à quel point c'est Donald Trump qui a les cartes en main et qui va être amené à négocier dans les prochains jours avec les autres pays pour trouver éventuellement un deal, le fameux deal promis par Donald Trump. Est-ce que Trump, il a des trucs à faire oublier aux Américains pour détourner leur attention? Là, aux États-Unis, ce qui se passe, c'est essentiellement les manifestations et les heurts avec avec la police en Californie, sur fond de déportation d'immigrés clandestins. L'inflation, je ne sais pas où ça en est aux États-Unis. Ça en est où les inflations, l'inflation? Elle est à fois 1000? Non. Elle repart? L'inflation repart à la hausse. Ah ouais, ça repart à la hausse. Ok. Avec les frais de douane, c'est obligé. Ouais, bah oui, bien sûr. Les tarifs douaniers, ouais, vis-à-vis de la Chine. Ouais, bon, donc effectivement, Donald Trump, il a des choses à faire oublier, ouais. Mais est-ce qu'il va réussir à obtenir ce fameux deal? Est-ce que Donald Trump va parvenir à tordre le bras à tous ces... Est-ce que Trump va trouver un deal avec l'Iran, par exemple, sur le nucléaire? Je sais pas. Je pense pas. Et sa catastrophique parade militaire aussi. Ah oui, c'est offrir une parade militaire pour son anniversaire, c'est vrai ça? J'ai vu passer ça rapidement, mais je sais pas si c'est vrai ou pas. S'il a voulu le faire ou s'il l'a vraiment fait. Oui, il l'a vraiment fait. Pardon, je rigole, mais c'est pas drôle, hein. C'est vraiment, c'est l'apprenti dictateur qui s'offre un petit kiff. Mais vraiment un petit kiff de... Petit kiff de dictateur, hein. C'est un ego trip. C'est un ego trip de chef d'État. C'était son anniversaire ou c'était un autre anniversaire? Bon, ça change pas grand-chose, hein. Il s'est juste offert un... Il s'est juste offert un kiff, quoi. C'était les deux? 250 ans de l'armée de terre. Ah, c'était l'anniversaire de l'armée de terre. Et comme par hasard, ça tombait à peu près en même temps que l'anniversaire de Donald Trump. Après, hey, nous les Français, on n'a pas beaucoup de leçons à donner, hein. On n'a pas beaucoup de leçons à donner, hein. Franchement, je vous rappelle que nous aussi, on organise un défilé militaire pour notre fête nationale tous les ans, dont on pourrait rediscuter un jour, je pense, j'espère. On pourrait avoir une discussion entre adultes pour se demander si c'est bien utile. Est-ce que c'est le meilleur moyen d'honorer nos armées? On pourrait faire mieux, sans doute. Ça doit pas être donné le 14 juillet, j'aimerais beaucoup connaître le prix. Bon, oh, détrompe-toi, hein, ça coûte pas beaucoup plus cher. Hein. De toute façon, c'est des militaires qui sont payés à la fin du mois le même tarif, donc c'est pas le fait de les faire défiler qui les fait coûter moins cher ou plus cher. Une armée qui marche au pas devant un pouvoir politique, perso, j'aime bien. Ah, mais moi aussi, moi j'aime bien la soumission du pouvoir militaire au pouvoir civil. Ça, j'ai toujours été pour, évidemment, bien sûr. Principe. Mais est-ce que tu te souviens de la dernière fois que quelqu'un a tenté d'ouvrir cette discussion? Sur le 14 juillet, je me souviens de Eva Joly, quand elle était candidate à la présidentielle en 2012, qui avait ouvert la discussion en disant est-ce qu'on ne pourrait pas faire mieux qu'un défilé militaire? Faut pas vouloir gagner des élections pour poser cette question. Ça dépend auprès de quel électorat tu cherches à gagner des voix. Tu veux dire, bon, la tradition politique de l'écologie, plutôt pacifiste, plutôt antimilitariste même, on peut le dire. On peut le dire. Sans faire injure aux écolos, on peut rappeler que voilà, ils ont des racines qui plongent plutôt vers. Le Larzac que vers le service militaire, tu vois. Est-ce que ça rencontre une vraie résistance de toucher à ça, ou des gens s'en fichent et ça reste par tradition? Non, non, il y a une vraie résistance, il y a une vraie résistance. Il y a une vraie résistance, il y a beaucoup, beaucoup de Français qui, alors je ne saurais pas les quantifier, mais qui sont favorables au défilé militaire du 14 juillet, qui veulent pas qu'on y touche. Clairement. Est-ce que les gens regardent le défilé du 14 juillet? Je crois que ça fait une bonne audience, hein, chaque année. Ma France, mon pinard, mes défilés militaires. Oui, c'est ça. On touche pas aux défilés militaires, c'est une tradition, d'accord? C'est comme ça et c'est pas autrement. Et on rediscute pas. Y a rien à discuter. Le Tour de France l'après-midi. Oui, et l'après-midi, il y a le Tour de France. Ça aussi, on touche pas. Il y a des traditions dans ce pays. Le Tour de France, on touche pas. Défilé militaire, on touche pas. Après, concrètement, vous avez quoi contre? Bah, le défilé militaire du 14 juillet, disons que c'est ça inscrit la France dans le club très fermé des pays dans lesquels il y a des défilés militaires tous les ans, que sont la Russie, la Corée du Nord, l'Iran. Voilà. La Chine, sans doute aussi, oui. La Belgique aussi, ouais, c'est vrai, la Belgique. Nos voisins belges, ils font un défilé militaire eux aussi. Donc ouais, non, c'est pas. C'est une démonstration de force et un concours de quéquette militaire internationale auquel peut-être que la France pourrait ne pas participer. On mettrait quoi à la place? Bah moi, quand je bossais à la mairie de Paris, on avait une opération qui s'appelait Les Parisiens à la rencontre de leurs soldats, où les militaires se plaçaient dans la ville et les Parisiens avaient la possibilité d'aller rencontrer les militaires, d'aller discuter avec eux, d'aller échanger. Et du coup, il y avait des petits stands et tout. Les militaires, ils avaient des stands pour recruter pour ceux qui voulaient plus d'informations. Ils avaient du matériel aussi qu'ils mettaient à disposition. Je me souviens notamment à la place de la Nation. Voilà quoi. Donc en fait, c'était l'occasion d'aller rencontrer les militaires. C'est toujours fait. Alors de mémoire, ça avait été arrêté après les attentats de 2015. Alors peut-être que ça a repris depuis, j'espère. Mais on peut faire une opération caserne ouverte. Les deux événements ne sont pas incompatibles. Ah bah non, à l'époque, les deux avaient lieu d'ailleurs. Il y avait le défilé militaire, puis l'opération où les militaires, après le défilé, restaient à disposition des gens pour venir les rencontrer. On voit aux réactions du chat que même ici, le sujet clive. Oui, c'est bien ce que je disais quand je dis qu'il y a une résistance. Il y a une vraie résistance. Il y a plein de gens qui veulent conserver le défilé militaire, y compris dans le chat. Et c'est normal, hein. C'est pas surprenant. Moi, je pense qu'on pourrait s'en passer, que ça serait pas plus mal. Après, j'ai pas envie de me battre pour ça, hein. Je vois bien qu'il y en a pour qui c'est touché à un truc trop sensible. Voilà. Tant qu'on garde le défilé aérien. Mais à ce moment-là, on garde la Ferté-Alais et le Salon du Bourget. C'est quoi l'intérêt du défilé? Bah, les personnes qui défendent le défilé disent que le défilé permet de créer un lien entre l'armée et la nation. Parce que c'est vrai, il faut reconnaître que quand on est dans le secteur civil, comme moi par exemple, on n'a pas beaucoup l'occasion de rencontrer l'armée, de savoir qui elle est, comment elle fonctionne, qu'est-ce qu'ils font les gens, c'est quoi leur métier, c'est quoi la réalité de leur vie. C'est pas un service public auquel on a accès facilement. Heureusement, d'un certain point de vue. Sinon, ça voudrait dire qu'on est en état de guerre et ce serait pas très drôle. Mais d'un autre point de vue, on peut se dire que c'est important de créer un lien entre la nation et son armée. Que les gens soient au courant, que les gens soient informés, que les gens connaissent. Et le défilé militaire du 14 juillet, en plus, il est diffusé à la télévision, ça permet ça. Ça permet de faire passer de l'information. Ça permet de dire aux Français, regardez votre armée, voilà à quoi elle ressemble, voilà qui c'est les gens, voilà quel matériel ils utilisent et tout. C'est pas parfait, mais ça a le mérite d'exister. Voilà à quoi servent vos impôts. Oui, voilà à quoi servent vos impôts, bien sûr. Évidemment. Donc, pour moi, c'est plutôt la symbolique qui me pose problème. Le 14 juillet commémore avant tout la prise de la Bastille par le peuple, un acte de révolte contre la monarchie. Or, aujourd'hui, bien que nous vivions en démocratie, ce sont les militaires représentant le pouvoir d'État qui défilent. Je trouve ça profondément contradictoire. Alors non, c'est pas contradictoire, puisque dans la République, l'État, c'est le peuple. L'État appartient au peuple. Du coup, c'est notre armée qui défile, c'est pas l'armée de l'État, c'est notre armée à nous. Tu saisis la nuance? Mais pour le coup, oui, je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'il faut faire un défilé militaire chaque année? Première question. Deuxième question, est-ce qu'il faut faire un défilé militaire le 14 juillet? On peut en rediscuter. Enfin, moi, je. On peut décaler la date, hein. On peut décider que le défilé militaire, il aura lieu à l'occasion du 11 novembre, par exemple. Voilà, il y a un lien direct avec la guerre, pour le coup. Mais encore une fois, dans la symbolique, tu parlais de symbolique, la nation et l'armée, c'est la même chose, hein. L'armée, elle n'est pas parallèle à la nation. C'est notre armée. C'est le peuple en armes. Alors évidemment, ça a changé depuis le XVIIIe siècle. Évidemment que c'est plus la même chose qu'à l'époque. Il a fallu se battre contre les monarchies de toute l'Europe, etc., avec une armée d'appelés, la bataille de Valmy, etc. Évidemment que les choses ont changé depuis. Maintenant, on a une armée professionnelle. Mais c'est pas parce qu'on a une armée professionnelle que ça en est moins notre armée à nous. Il existe déjà des défilés et des cérémonies le 11 novembre. Oui, je sais, mais on peut les changer, hein, pour. L'armée salue le président, pas le peuple, lors du défilé. Bah, c'est parce qu'en même temps, le président, il est choisi par le peuple. C'est toute la symbolique républicaine, c'est le principe un peu de la démocratie représentative, quoi. Le président de la République, c'est le chef des armées qui a été élu par le peuple. C'est le principe du. C'est un représentant, le chef de l'État. Principe de la représentation. Il nous représente. Même si on l'aime pas. Hein. Et Dieu sait qu'on l'aime pas. Je l'ai pas élu, moi. Eh, mais ça revient au même. Ça marche pas, ça. C'est bien tenté, mais ça marche pas. Si l'armée défilait devant chaque maison pour saluer tous les Français, ça serait compliqué de retransmettre ça sur France Télé. C'est vrai que ce serait compliqué. C'est vrai que ce serait un chouïa compliqué. Plutôt qu'un défilé, Michel Drucker faisait des émissions intéressantes sur l'armée. Ouais, je me souviens, Drucker, il avait fait des émissions qui mettaient en avant les forces armées. Je me souviens. La patrouille de France pourrait faire des cœurs dans le ciel. Ah bah ça, il faudrait qu'on confie à Thomas Joly l'organisation du défilé. Vas-y Thomas Joly, fais-nous rêver. Thibaut InShape, le nouveau Drucker. C'est vrai que Thibaut InShape aussi, il fait des émissions, il met en avant l'armée. On pourrait faire une loterie qui permettrait à six citoyens français de faire le vol de la patrouille de France le 14 juillet. Moi, j'ai survolé Paris en hélicoptère hein, pour le 14 juillet. Alors, c'était pas pour le 14 juillet, c'était pour la répétition du défilé aérien. Le 11 juillet 2017, donc c'était 3 jours avant le 14 juillet, il y avait le défilé aérien, donc il y avait la répétition générale du défilé aérien. Et moi, j'ai eu une place dans un des hélicoptères de combat. Et donc. Non seulement j'ai survolé Paris en hélico, ce qui n'existe pas, ce qui n'arrive à personne, mais en plus j'ai survolé Paris en hélicoptère de combat, qui était un super puma. Et c'était trop bien. T'as vomi? Non, non, bien sûr que non, j'ai pas vomi. Je te déteste, Jean, tu le sais. Oui, je sais, je sais, je sais. C'était très très cool. Par contre, je me souviens que l'hélico, il était dans un sale état. Hein. Il était un peu rincé. Il avait sa batterie à plat. On n'avait pas pu décoller. Je me souviens. Enfin, on n'avait pas pu décoller aussi vite que les autres. Donc, il a fallu aller chercher la batterie de l'hélicoptère d'à côté qui avait déjà démarré ses moteurs pour pouvoir démarrer le nôtre. Et tu sentais qu'il était bien patiné l'hélico. À l'intérieur de l'hélico, c'était bien patiné. Merci Coca pour ton raid, bienvenue les raiders de chez Coca, j'étais en train de raconter comment j'ai survolé Paris en hélicoptère de combat en 2017 pour les répétitions du défilé aérien du 14 juillet dans un super puma. Et c'était trop la balle. C'est pas très rassurant les hélicos usés qui survolent Paris. Ah bah ils sont aptes au combat quand même, hein. Mais c'est vrai qu'ils étaient bien, hein, c'est vrai. Un vieux super puma, exactement. On change de sujet, les amis. Je vous propose que l'on parle de la censure, la motion de censure qui vient. Vous la sentez, la motion de censure qui vient là? Vous la sentez arriver, la motion de censure? Ça va censurer, attention, hein. Ou pas? Ça, on va voir. Non, pas du tout. Je la censure. Ça va venir. Regardez-moi ça. Sur les retraites, la question de la censure divise le Parti socialiste. Eh oui, le Parti socialiste, toujours lui. Toujours lui, celui qui avait sauvé les fesses du gouvernement de François Bayrou. C'était en janvier dernier, sur le vote de la motion de censure, le non-vote du coup de la motion de censure. Eh ben, le Parti socialiste ne sait pas où se mettre. Alors que le groupe de travail sur les retraites touche à sa fin, les députés socialistes sont scindés en deux entre ceux qui voudraient censurer le Premier ministre François Bayrou et ceux qui ne le souhaitent pas. Ça, c'est l'intérieur du congrès du Parti socialiste à Nancy actuellement. Le Parti socialiste vient d'achever son congrès à Nancy dimanche 15 juin, après s'être divisé tout le week-end sur les relations avec la France insoumise. Alors qu'Olivier Faure vient à peine d'être réélu à la tête du parti, l'ombre d'une nouvelle scission plane déjà. Censurer ou ne pas censurer le Premier ministre, François Bayrou? C'est la question que se posent les troupes socialistes, 2 jours avant la fin du conclave sur les retraites, mardi 17 juin, présenté comme une concession faite aux députés socialistes, les seuls à gauche à ne pas avoir voté la censure le 3 février sur le budget 2025. Nous ne sommes pas l'assurance-vie de François Bayrou, mente. Non, pardon. Nous ne sommes pas l'assurance-vie de François Bayrou, mettait pourtant en garde Olivier Faure le 8 juin dans les colonnes de la Tribune dimanche. Ouais, bah on va voir ça, hein. Ça va dépendre si ça censure ou pas. La censure reste très sérieusement sur la table, surtout si le Premier ministre décide de ne pas revenir au Parlement. La retraite à 62 ans, cela reste l'objectif et l'horizon des socialistes. Ce n'est pas un conclave aussi large qu'on aurait aimé. Aujourd'hui, l'attente, c'est l'abrogation de la réforme des retraites, confirme le député du Calvados Arthur Delaporte, proche d'Olivier Faure, lors du congrès. Bon, bah ça. L'accord du nouveau Front populaire, signé entre le Parti socialiste et les autres partis de gauche en 2024, prévoyait d'abroger la réforme pour réaffirmer l'objectif commun du droit à la retraite à 60 ans. L'idée d'une réunion sur les retraites est alors proposée le 14 janvier dans les discussions de politique générale du Premier ministre. François Bayrou cherche ainsi à éviter la censure de son jeune gouvernement en faisant une concession au PS. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Vous vous en souvenez puisque vous followez ma chaîne, évidemment. Avant la fin programmée du groupe de travail sur les retraites, le Premier ministre a affiché un certain optimisme sur les chances d'accord entre les partenaires sociaux, mais les numéros 1 de la CFDT et du MEDEF continuent d'afficher leur ligne rouge, notamment sur la pénibilité. Je pense que la possibilité existe de trouver un accord dynamique, car ce qui est en gestation, c'est le retour de la démocratie sociale, a positivé le chef du gouvernement selon les propos rapportés de la tribune dimanche. Ok? Donc, François Bayrou veut montrer de l'optimisme, mais il sait très bien que c'est pas entre ses mains que ça dépend. Il n'avait pas donné que des miettes au PS. Ah non, non, il n'avait pas donné que des miettes au PS. Il avait donné le conclave sur la retour de la, sur l'abrogation de la réforme des retraites à 64 ans. Comment faire si la CFDT s'entend avec le MEDEF sans revenir sur la mesure d'âge? Le député socialiste d'Indre-et-Loire, Laurent Baumel, foriste, prédit que le groupe sera séparé en deux. Il y aura ceux qui considèrent qu'il faut suivre le syndicat réformiste parce que le PS est à la branche politique de la CFDT et tant pis pour la mesure d'âge, et d'autres, dont il fait partie, qui diront qu'il n'y a pas pire réforme sociale que celle-là, voulue par des gens qui vont très bien et qui imposent à des ouvriers et des salariés de bosser 2 ou 4 ans de plus. La CFDT peut accepter beaucoup de choses, mais nous ne sommes pas un syndicat, mais un parti politique, ajoute Laurent Baumel. Donc, légitime pour amender un texte au Parlement. Bah oui, c'est aussi sur les amendements que ça va se jouer. La mesure d'âge est emblématique car il y a une majorité contre cette réforme, continue-t-il. La discussion devrait se tenir mardi en réunion de groupe. Encore faut-il que le gouvernement laisse aux députés la possibilité d'amender largement un éventuel texte issu de l'accord. Matignon affirme de son côté qu'à ce stade, aucune mesure n'est actée et que les arbitrages seront rendus par le Premier ministre est présenté mi-juillet. Mi-juillet, donc à la fin de la session extraordinaire du Parlement, on aura les arbitrages qui seront rendus par le Premier ministre, qui sait très bien que c'est ce sur quoi va se jouer l'avenir de son gouvernement et la possible censure par les socialistes. La double question, c'est combien de socialistes vont censurer? Est-ce que c'est les deux tiers du groupe qui sont proches d'Olivier Faure qui vont être les seuls à censurer, et est-ce que c'est suffisant? Normalement, ça l'est. On avait calculé qu'il fallait une vingtaine de socialistes si tout le reste de la gauche et de l'extrême droite votait la censure. Il faut une vingtaine de socialistes pour faire tomber le gouvernement. Mais il y aura peut-être beaucoup d'abstention. Absolument. Si le RN couvre, les votes du PS ne servent à rien. Ah non, 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 non. Non, non, il faut quand même qu'il y ait les votes du PS, hein. Le RN plus les insoumis, les communistes et les écolos, c'est pas suffisant. Il y a besoin des socialistes. Comment ça va ici? Bah ça va et toi? Tout roule? Est-ce que le RN voterait? Le RN, ils ont dit qu'ils attendaient de voir. Le RN, leur position, c'est de dire on ne censure pas a priori. On attend de voir ce que donnera le conclave, on attend de voir ce que donnera à l'exercice le gouvernement de François Bayrou. C'est ça leur position. Merci Pantoufle pour ton resub, merci Le Popote, merci Easy Lizzy, merci Robespouf, Bichou, Rob Passodi, Mélisy, Lotio, Elgadina, Star Wolf, Genjiro. Merci beaucoup pour vos abonnements. La censure, ça serait quand? La censure, ce serait probablement pour la rentrée de septembre ou à l'occasion du vote du budget. Mais le PS n'a sauvé personne puisque le RN ne vote pas depuis le début. Ah oui, tu as raison, effectivement, oui, sur la première censure du gouvernement de François Bayrou, de toutes les manières, le RN n'a pas voté. Donc oui, effectivement, que le PS vote ou pas, ça ne change pas grand-chose. Donc en gros, ce qu'a réussi à faire Emmanuel Macron, parce que je vous rappelle quand même qu'Emmanuel Macron, il avait dissous l'Assemblée en disant je dissous l'Assemblée parce que sinon on aura un problème à l'automne prochain. C'était ça son argumentaire. Qui n'était pas forcément faux d'ailleurs comme argument. Sauf que là, on se retrouve un an plus tard, exactement dans la même situation. C'est à l'automne prochain que François Bayrou risque de se casser la gueule sur l'examen du budget à l'Assemblée. Le PS veut retourner aux urnes avec une gauche aussi divisée, c'est suicidaire. Non, si la gauche se réunit à nouveau. S'il y a à nouveau le NFP, il n'y a pas de raison que la gauche soit divisée. Maintenant qu'Olivier Faure a été réélu à la tête du Parti socialiste, a priori, on se dirigerait vers une reconduction du NFP. Si les insoumis sont d'accord, évidemment. Et les insoumis, je vous rappelle qu'on a reçu sur Backseat plusieurs insoumis qui nous ont tous dit qu'ils étaient plutôt partants. Ils ne l'ont pas dit aussi clairement, mais on a bien compris qu'ils retenaient leur coup contre le Parti socialiste. Donc non, non, moi, pour moi. Le RN n'a aucun intérêt à voter la censure, ça mettrait Marine au chômage. Je sais pas si Marine Le Pen, elle fait de son cas personnel un casus belli sur le vote de la censure. Je l'ai pas entendu dire ça. Hein. Je l'ai entendu dire qu'elle était prête à voter la censure à l'automne. Même si effectivement tu as raison, vu qu'elle est inéligible, elle pourrait pas se représenter. S'il y a une censure, est-ce que tu crois que Macron va dissoudre? C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Il peut aussi nommer quelqu'un de gauche à Matignon. Charge à cette personne de réussir à faire la démonstration de sa capacité à gouverner. Ce qui n'est pas du tout acquis, hein. On peut aussi avoir un centre qui progresse. Ouais, peut-être, hein, mais je t'avoue que j'ai du mal à imaginer une progression en nombre de voix du centre en cas de dissolution. Hein. Vu qu'ils ont déjà réduit en 2022, réduit en 2024, je vois pas pourquoi ça réaugmenterait alors qu'on est en fin de, alors qu'on arrive dans la fin du macronisme. Ils n'ont pas vraiment le vent dans les voiles. Tu vois, le bayrouisme, là, j'ai du mal à voir François Bayrou faire des bons scores aux élections. Olivier Faure ne veut pas de LFI. Pour la présidentielle de 2027, non. Mais ça tombe bien, la LFI ne veut pas du PS non plus. C'est assez bien réparti. Par contre, pour les législatives, si. Ils l'ont déjà fait à deux reprises, je vois pas pourquoi ils ne le feraient pas une troisième fois. Une coalition d'ensemble à LR, ça peut le faire. LR rafle tout aux élections intermédiaires. Ouais, mais là, c'est pas une élection intermédiaire comme les autres, hein. On parle d'une dissolution. Après, ça dépend. C'est aussi une question de mode de scrutin, hein. Ça dépend si on passe au scrutin proportionnel ou si on reste au scrutin majoritaire entre les deux. Si on passe au scrutin proportionnel, tout ce que je viens de te dire, tu l'oublies. Et effectivement, là, il n'y a pas d'alliance à gauche. Il n'y a pas besoin d'avoir une alliance à gauche pour se présenter. Donc, scrutin proportionnel égale Bardella à Matignon. Non, c'est pas sûr ça. C'est pas sûr que Bardella soit à Matignon avec un scrutin proportionnel, hein. Bardella, il a fait 33% aux élections européennes. Alors, je suis d'accord, c'est énorme, hein, c'est un score absolument faramineux. Mais 33%, c'est pas 50%. Donc, ça garantit pas automatiquement, mécaniquement, l'arrivée du RN au second tour. L'arrivée du RN, même pas au second tour s'il n'y a qu'un seul tour, mais l'arrivée du RN au pouvoir. Bardella ne peut devenir Premier ministre qu'avec un scrutin majoritaire. Un scrutin majoritaire ou alors une majorité absolue dans un scrutin proportionnel. Si tu fais un scrutin proportionnel à deux tours et qu'au second tour, le RN remporte 55% des voix, bah il a 55% des députés et il peut gouverner. La proportionnelle, c'est pas forcément en un seul tour. Non, la proportionnelle, ça peut être en deux tours. C'est le cas au régional, par exemple. Il y a deux tours. Et il y a des fusions de listes qui sont possibles entre les deux tours. Est-ce qu'on peut être Premier ministre quand on est inéligible? Oui. Ministre, c'est pas un mandat, c'est une fonction. C'est pas une élection, donc. Ou avec une proportionnelle avec prime de siège comme il le voudrait, mais peu de chances que ce soit adopté au Parlement. Oui, tu as raison, effectivement, j'y avais même pas pensé, mais oui. Le RN demande une prime majoritaire qui permet une surreprésentation de la liste arrivée en tête. Un peu comme on a dans les conseils municipaux et régionaux. En fait, ils veulent un scrutin sur mesure. Ah bah ils sont pas bêtes, hein. Ils sont loin d'être bêtes, hein. Ils savent trouver midi à leur porte, quoi. Donc oui, non, oui, le RN veut un scrutin majoritaire, un scrutin proportionnel avec prime majoritaire, parce que c'est aujourd'hui le premier parti de France. Donc évidemment, il serait bête de pas le demander. Il y a peu de chances que ce soit adopté, mais admettons. Ce serait bête de ne pas le demander. Le PS n'est pas très fan de la proportionnelle. Bon, pourtant, c'était dans leur programme, hein. Comme les LR ne veulent pas, surtout pas de proportionnel, chacun pousse la règle qui l'arrange. Oui, exactement. Oui, bien sûr. Mais c'est normal, hein. Ça fait partie des négociations. On verra si la proportionnelle est votée avant l'automne. Ou après le budget. Est-ce qu'il y a eu des propositions de scrutin à la préférentielle? Il paraît que ça lisse un peu les résultats. Non, il n'y a pas eu de proposition faite dans le débat public là-dessus. Pas que je sache. Ça va bien négocier durant l'été. Bah, va falloir que les partis négocient effectivement pendant l'été pour savoir s'il y a censure, pas censure. Et s'il y a censure, est-ce qu'il y a dissolution, pas dissolution? Aucun parti n'est prêt à faire des compromis comme on le voit actuellement, donc la proportionnelle rendrait le pays ingouvernable sur le long terme. Bah non, parce que tous les autres pays européens qui ont la proportionnelle sont pas ingouvernables. Donc il faudrait m'expliquer pourquoi ce serait impossible en France et possible ailleurs. Par contre, c'est sûr qu'un scrutin proportionnel, ça force tous les partis à avoir une conception de coalition. Donc des négociations plus poussées, plus fréquentes sur les programmes politiques à appliquer, plutôt que des visions hégémoniques. Et la culture du compromis, c'est une culture qui peut être adoptée assez rapidement, hein. Peut-être que la plupart des pays européens n'ont plus de parti de gauche radicale. C'est quoi la gauche radicale pour toi en France? On peut pas dire qu'ils vont très bien. Est-ce que toi aussi t'as peur d'un second tour Retailleau-Bardella en 2027? J'en sais rien, on est tellement loin de 2027, il peut se passer plein de trucs. Die Linke comme parti de gauche radicale. Die Linke, vous le mettez dans la gauche radicale. C'est l'équivalent de la France insoumise, hein. Die Linke. Enfin, si vous voulez, hein. Encore une fois, les cases, on souffle. On parle de David Lisnard ou de Laurent Wauquiez comme candidat de la droite. Comme candidat de la droite, il y a du monde qui se presse au balcon, hein. Il y a quand même pas mal de monde qui se presse, hein. Il y a Laurent Wauquiez, David Lisnard, Retailleau, Darmanin. Il y a Xavier Bertrand aussi. Édouard Philippe, ouais, alors Édouard Philippe, il n'est pas chez les Républicains, donc je pensais pas vraiment à Édouard Philippe. Mais pour moi, Wauquiez, il est un peu hors course, hein. Wauquiez, il a perdu le parti. Je vois pas pourquoi est-ce qu'il deviendrait dans moins de 2 ans le candidat. Lisnard, il a pas de troupe. Ouais, c'est vrai. Oh, il a une cote de sympathie. À quelle probabilité tu estimes une nouvelle dissolution de Macron? Pour l'instant, très faible, parce qu'il n'y a pas de motion de censure qui a été déposée, il n'y a pas de vote. Faudra attendre l'automne prochain pour qu'on en discute. Mais là, il n'y a pas de dissolution, là. Et Emmanuel Macron a d'ores et déjà dit qu'il ne voulait pas faire de nouvelles dissolutions. Bon. Il a raison de le dire, ça coûte pas très cher. Peut-être qu'il peut être contraint et forcé de dissoudre. Est-ce qu'il y a des chances que Dominique de Villepin se présente? Moi, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait vraiment que Dominique de Villepin se présente. Mais on peut être surpris. Il peut nous faire une candidature out of nowhere. Mais alors, je me demande bien à qui est-ce qu'il prendrait des voix, Dominique de Villepin. Au PS? Non. Non, je sais pas. Je pense que ce serait un peu. Ce serait, je sais pas, ce serait réparti, je pense. Peut-être que c'est que des abstentionnistes hein, qui vont soutenir Villepin. Non mais moi j'y crois pas trop à Dominique de Villepin. Enfin pour moi c'est pas très sérieux. On verra, hein, mais je pense que ça va pas aller très très loin. Villepin de gauche, j'aurais tout entendu. Ah bah en ce moment Dominique de Villepin il fait un retour en grâce à gauche assez spectaculaire. Hein. Dominique de Villepin à la fête de l'UMA, Dominique de Villepin. Contre la droite, contre Retailleau. C'est à gauche qu'il est applaudi, là. Est-ce que tu penses que Zemmour va se représenter? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que Zemmour va se représenter? Parce qu'il a quand même pris une claque, hein, la dernière fois. Ça l'a un peu fait disparaître de la scène. Il a perdu des membres, hein, il a perdu des cadres, de son parti. Ou alors ce sera Knafo. Ce sera Sarah Knafo qui sera la candidate. C'est possible. Bonjour Jean, c'est pas aujourd'hui Baxit à la maison de la radio? Non. Baxit à la maison de la radio, ça aura lieu. Il faut que je le retrouve. Merde, je sais plus. Merde, je sais plus. Vous avez la date? C'est le 23? Oui, c'est ça, c'est ce que j'avais noté. Ah, mais oui, c'est putain, je suis con, c'est écrit là dans mon agenda. Oh là là, quel con. Backseat à la maison de la radio, le 23. Je vous préviens, ce sera le dernier backseat de la saison. Ce sera le dernier backseat de la saison. Eh oui! Et ce sera un backseat spécial consacré à la cybersécurité. On est en train de vous concocter une émission un peu spéciale, un peu différente de d'habitude. Et on va parler de cybersécurité. De piratage, de protection des données, etc. Des enjeux politiques qu'il y a autour de ça. On vous expliquera tout ça. Sauf si dissolution. Non, même en cas de dissolution, on fera ce. Vous savez, les backseats comme ça se prépare longtemps à l'avance. Avec nos partenaires, avec les gens qui nous font confiance. Et ce jeudi, je vous rappelle qu'il y a Euroguesseur. Ce jeudi, il y a Euroguesseur sur la chaîne Twitch d'Arte. Jeudi 19. Venez, ça va être chouette. Et on n'oublie pas le Bourget. Eh ben le Bourget, moi j'y vais, je sais pas, vendredi, samedi. L'un des deux, je sais pas lequel. Selon ce que tu me conseilles. Il n'y a pas de backseat le 26? Non, il n'y a pas de backseat le 26. C'est quoi le Bourget? Le Bourget, c'est le salon international de l'aéronautique et de l'espace. Vendredi, c'est plus calme, je serai au stand ASF. Ok, bah j'essaierai de venir vendredi alors. N'oubliez pas la fête de la musique samedi. Ah mais oui, c'est le 21. Eh, mais c'est la fête de la musique samedi. On va danser, on va chanter. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le projet? On ira sur la chaîne de Trivia. On va faire un raid, les amis, je vais y aller. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Hop. Merci d'avoir été avec nous, avec moi. Pour cet après-midi, cette petite revue d'actu, je vous rappelle qu'on se retrouve demain pour la séance des questions au gouvernement à 14h. Donc demain, 14h, t'es sur mon live, je compte sur toi. Et on va suivre ensemble la séance des questions au gouvernement. J'ai publié sur mes réseaux sociaux, notamment sur Instagram et sur Blue Sky, ma programmation. On va faire un raid chez Defend Intelligence, qui est spécialiste en cybersécurité. Il parle d'intelligence artificielle, c'est son grand sujet. Je vous fais des bisous, bonne soirée, à tout bientôt, ciao ciao.
Ce clip, j'avais fait ce clip. Si j'arrive à le retrouver réel.